À voix nue, Emmanuel Loyer, je m'entretiens avec
Monique Lévi-Strauss.
Aujourd'hui, cinquième épisode, Nouer et dénouer. Alors Monique, l'attention aux arts textiles dont vous êtes devenue depuis quelques décennies une spécialiste et une promotrice est aussi une invitation pour nous aujourd'hui à filer la métaphore des fils de la vie, justement, nouer et dénouer. Vous êtes devenue veuve en 2009, à l'âge de 83 ans. Vous avez été très active. Je dirais que vous avez eu le vieillissement joyeux jusqu'à présent. Maintenant, vous avez 99 ans, bientôt un siècle. Le monde de votre jeunesse a muté en un monde en partie incompréhensible. À l'âge de la très grande vieillesse, qu'est-il permis d'espérer ? Est-ce qu'il y a quelques privilèges du grand âge ? Comment on vit lorsqu'on a 99 ans ? Voilà un peu le programme, le menu de ce cinquième épisode. Alors, je voudrais commencer par cette spécialité qui a été la vôtre, cette curiosité, cette passion aussi, pour pas seulement les châles en cachemire, mais tous les arts textiles. En tout cas, dès les années 50, vous commencez, je crois, à collectionner les châles en cachemire que vous achetez, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, aux puces, qui est également une des grandes passions que vous avez partagées avec votre mari, Claude Lévi-Strauss.
Oui. En effet, tous les samedis matins, à 9h, nous étions aux puces. La plupart des marchands n'avaient pas encore ouvert. Ils s'installaient. On les regardait s'installer. Et nous avions remarqué, Claude et moi, que ce qui ne se vendait pas, les marchands les mettaient sous les tables. Et seulement ce qui était à la mode sur les tables. Et Claude m'avait dit, ce qui est très important, c'est de n'acheter que ce qui n'est pas à la mode, autrement dit, ce qui ne vaut pas trois fois son prix réel. Et pour ça, il faut regarder sous les tables ce que les marchands posent sur les trottoirs. Et là, nous avions remarqué qu'il y avait des piles de châles cachemire. Et Claude me disait, tu vois, les châles cachemire, c'était le grand cadeau de mariage au 19e siècle. Il y avait non seulement la bague de mariage, mais il y avait le châle cachemire. Et parmi les châles, il y a des vrais chefs-d'œuvre. Et ça vaut vraiment la peine de les regarder. C'est pas du tout à la mode. Personne ne les voit. Ça vaut la peine de s'y intéresser. Et donc, c'est lui qui a attiré mon attention sur les châles cachemire. Alors, j'ai commencé par en acheter quelques-uns qui ne valaient pas cher du tout. Et puis, j'ai été à la Nationale pour lire tout ce que je pouvais sur les châles cachemire, comment ils étaient tissés, le tissage des châles, etc. Et j'ai eu une grande chance. Plusieurs cousines germaines de mon mari étaient conservateurs à la Nationale. Et elles m'ont aidée de manière formidable. Parce que elles savaient exactement dans quel rayon j'allais trouver des informations. Elles me montraient comment chercher. Enfin, elles ont été d'une gentillesse avec moi, enfin, que je voudrais signaler.
Et vous aimiez l'objet. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un châle en cachemire ?
Eh bien, ce qui fait la beauté, c'est l'assemblage des couleurs. C'est une vraie composition de couleurs. Dans les premiers châles, il y avait un grand fond uni et seulement les bordures, le bas et le haut du châle avaient un motif. Mais ce motif, au début, était entièrement tissé à la main. Il n'y avait aucune mécanisation. C'est seulement beaucoup plus tard, quand le châle cachemire est devenu tellement à la mode, la demande en châle cachemire a fait faire des progrès à l'industrie textile. Parce que pour fournir assez de châles, l'industrie textile a été obligée de faire d'immenses progrès très rapidement. Et aussi d'avoir recours à une force autre que la force du bras, c'est-à-dire soit la force hydraulique et puis ensuite la force électrique. Donc, C'est toute l'histoire du châle raconte aussi l'industrialisation. Et l'industrialisation a beaucoup changé la résidence en province. Parce qu'avec l'industrialisation, les ouvriers ont été obligés de venir habiter près de l'usine. Alors que avant, c'était artisanal. Le châle était tissé chez l'habitant. Mais à partir du moment où le tissage a cessé d'être artisanal, c'est-à-dire vers 1840, eh bien, les ouvriers tisseurs ont dû venir habiter autour des usines.
Et combien de châles vous avez aujourd'hui ?
Je vais en avoir une centaine.
En tout cas, vous êtes devenu peu à peu une spécialiste, vous parliez des archives, des bibliothèques, à la fois du châle en cachemire, bien sûr, mais aussi, plus généralement, une promotrice des arts textiles en France où ils étaient tout à fait ignorés.
Oui, et notamment, les arts textiles doivent s'apprendre au musée des arts décoratifs. Eh bien, au musée des arts décoratifs, on considérait que le textile, c'est des ouvrages de dames. Et les conservateurs, hommes, ne s'y intéressaient pas du tout. Enfin, sauf quelques exceptions, parce qu'il y a toujours des exceptions et des gens qui voient clair. Il y avait quelques conservateurs, hommes, qui comprenaient, mais c'était rarissime. En gros, la direction des arts déco n'attachait aucun prix au textile, alors qu'il y a des collections fabuleuses au musée des arts décoratifs et au Louvre. Ben, tout ça, c'était très très négligé, et je dois dire que ça a complètement changé.
Là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'expositions
bien sûr. On reconnaît, mais à l'époque, c'était jugé un art mineur, disons.
C'est ça. Alors, cette promotion, finalement, elle suit aussi la carrière de quelqu'un qui est votre ami depuis une cinquantaine d'années et qui aujourd'hui, en France, est un nom connu, mais qui ne l'était même pas il y a 15 ans, je dirais. C'est Sheila X. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, est cette artiste ?
Sheila X est une Américaine qui a fait toutes ses études à l'université de Yale et elle était très reconnue comme artiste textile à Yale et elle a même eu des bourses, enfin, pour aller étudier les textiles en Amérique du Sud. Et j'avais beaucoup d'admiration pour son travail. Et je suis devenue son amie en 68, je crois.
Oui, elle a fait une exposition et d'ailleurs, Claude Lévi-Strauss a écrit un petit texte pour cette exposition. Vous partagiez finalement cette curiosité pour l'art textile, lui, comme anthropologue. Il écrit « Ces tentures aux ombres insondables ont l'épaisseur vivante et chaude de toisons. Par leur structure complexe, elles creusent des perspectives attribuables seulement à des palais de rêves. » Etc, etc.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle fait, pour ceux qui ne la connaissent pas ? Est-ce que vous pouvez décrire le type d'œuvre ?
Ce qu'elle fait, c'est des grands écheveaux, très souvent en lin naturel. Le lin naturel, c'est un gris beige très, le fil est du gris beige très clair. Elle fait des grands écheveaux et ces écheveaux, elle les lie en partie avec des fils de soie de couleur vive. Et l'assemblage de plusieurs écheveaux fait une tenture extrêmement vivante qui orne très bien des très grandes surfaces de salles de conférence, par exemple, qu'on ne sait pas comment orner. Ça donne de la vie à ces lieux. Mais il n'y a pas que ça, elle fait aussi des broderies géantes qui ont du relief sur de très grands panneaux. Ça aussi, c'est admirable.
Votre amitié est toujours active.
Oui, alors
Toutes les deux, vous avez un certain âge et c'est très joli de voir cette durée et finalement collaboration qui persiste puisque vous avez écrit sur elle.
Oui, non seulement j'ai écrit sur elle, mais quand elle a fait sa première exposition dans la galerie Suzy Langlois, boulevard Saint-Germain, Suzy Langlois, la directrice de la galerie, lui avait dit « Sheila, il faut absolument que tu demandes à quelqu'un de connu d'écrire quelques lignes sur toi, puisque tu es totalement inconnu à Paris, et sur le carton d'invitation, il faut bien qu'il y ait la phrase de quelqu'un de connu pour que les gens viennent. » Et elle m'avait dit « Est-ce que tu connais quelqu'un qui écrirait quelque chose sur ce que je fais ?» J'en avais parlé à Claude, et Claude, je l'avais emmené à l'atelier de Sheila, et il avait dit qu'il était d'accord avec moi, que ce qu'elle faisait était vraiment intéressant. Et je lui ai dit « Est-ce qu'on pourrait trouver quelqu'un pour écrire quelques lignes ?» Plusieurs heures après, Claude est venu avec un texte, quelques paragraphes.
C'est ce que j'ai lu là tout à l'heure, oui. Le palais de rêve, oui.
Oui, pour lancer Sheila. Et Claude, à ce moment-là, était très connu. Il était professeur au Collège de France. Et c'était idéal. Et je me souviens que Sheila, quand je lui ai apporté le texte de Claude, elle avait les larmes aux yeux.
Alors Claude, à partir de la fin des années 70 et des années 80, il va écrire moins. Son grand œuvre, Les Mythologiques, est terminée. Il écrit encore des livres,
oui.
Mais disons que c'est... Il est bientôt à la retraite du Collège de France en 1982. C'est du coup vous qui vous activez à ce moment-là par différentes expositions dont vous êtes commissaire, etc. Il y a aussi les voyages au Japon. On en a un petit peu parlé, mais c'était plutôt une exception dans votre vie autrement sédentaire. Le Japon, ça a été important aussi, même du point de vue des arts textiles, je dirais, et puis de l'artisanat, etc. J'ai l'impression que c'est une passion que vous avez quand même partagée pendant ces années-là.
Il faut vous dire deux choses. C'est que nous, on a eu une passion pour le Japon, mais que le Japon avait une passion pour Claude. Parce que sans ça, on n'aurait pas eu une passion pour le Japon. Ça coûte très très cher de voyager au Japon. Or, c'est l'État japonais qui nous a invités au Japon. Tout était payé par le ministère. Ça fait toute la différence. Une fois, ils se sont trompés. Au lieu de nous envoyer deux limousines, une limousine pour Claude et moi et une limousine pour les bagages, ils nous ont envoyé 12 limousines. Mais c'est vous dire que on ne regardait pas. On était prêt à tout pour nous au Japon. Et c'est ça qui fait la grosse différence. C'est que nous avons eu les moyens de voyager comme nous voulions. Avec une interprète, nous avions toujours une interprète avec nous.
Et qu'est-ce que vous avez découvert au Japon ?
D'abord la beauté des paysages, ensuite la beauté des œuvres, et puis la nourriture. Enfin, c'est magnifique le Japon, surtout quand on le voit bien. Enfin, quand on peut... Par exemple, nous avons refusé catégoriquement d'habiter dans les hôtels internationaux. Et nous avons toujours habité dans des ryokan, c'est-à-dire des auberges japonaises. Mais là, on dort à même le sol. Ça, il faut quand même que vous le sachiez. C'est le prix qu'on paye. Simplement, de vivre dans une auberge japonaise, on comprend beaucoup mieux la vie au Japon.
Oui, il faut réussir à manger en étant...
Ah, puis il faut boire l'alcool.
Accroupi ou qui...
Ah, tout.
Tout n'est pas fait pour les corps occidentaux.
On s'y est mis, on a fait ce qu'il fallait. Oui. Mais surtout, on mange comme eux et on boit l'alcool comme eux, on fait exactement comme eux.
Et au Japon, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Imamura qui s'appelle La balade de Narayama.
Oui.
Dans nos sociétés... les vieux ne montent pas dans la montagne quand ils sentent la faim arriver,
oui.
C'est un peu différent. Vieillir, c'est autre chose. Comment avez-vous accompagné Claude dans son vieillissement ? Il est mort finalement en 2009 à 99 ans.
Eh bien, Claude m'avait demandé une seule chose. Il m'avait dit « Tout ce que je te demande, c'est de me garder à la maison. Tout ce que tu veux, mais garde-moi à la maison. » Et je lui ai promis, et je l'ai gardé à la maison. Là, il faut que je rende un grand hommage à la mairie du 16e arrondissement. Je n'osais pas leur demander autant d'aide, mais c'est les infirmières qui venaient, qui disaient, Faites attention, elle va nous lâcher un de ces jours si vous n'envoyez pas plus d'elle. Alors immédiatement, on m'envoyait quelqu'un. On avait peur que je meure, si vous voulez, avant Claude. Bon.
Oui, parce qu'il tombait souvent. Vous m'avez raconté qu'il y avait parfois, d'ailleurs, dans ces moments de un peu tragiques, des moments un peu comiques aussi.
Oui, Claude était alité. Et quand j'étais sans infirmière, eh bien, quand il voulait aller, par exemple, sur son fauteuil, c'est moi qui le sortais de son lit. Il faut que je vous dise qu'il pesait 80 kilos et je le prenais dans mes bras et très souvent, j'arrivais à le garder dans mes bras jusqu'au fauteuil. Mais de temps à autre, je le loupais. Et bon, il le sentait. Ça, parce qu'il glissait dans mes bras. Ça me donnait le temps de m'allonger par terre et de le faire tomber sur moi. Et ça nous mettait tous les deux dans le fou rire. Mais un fou rire colossal, parce qu'il arrivait couché sur moi et il trouvait ça absolument rigolo possible. Et je veux dire, ça l'était, ça, il n'y a pas de doute. C'était un fou rire énorme. Bon, mais il était de très bonne humeur, il voyait que je faisais un grand maximum. Ensuite, on arrivait, je me mettais à genoux, je le mettais à genoux, et puis j'arrivais à le lever et à le mettre sur son fauteuil. Mais je ne voulais pas qu'il se casse. Et toute la chose, c'était, quand on glissait, il fallait que je sois dessous. Voilà.
Bon, finalement, il est mort.
Oui, donc, il est quand même mort.
Quand même mort, voilà.
Oui, mais je l'ai gardé à la maison jusqu'au dernier jour.
Hein. Oui. Il est mort en 2009.
Oui.
Il a eu une vie très accomplie. Vous dites qu'il voulait pondre une œuvre qu'il avait dans le ventre. Il l'a fait. Oui. Alors vous, est-ce que vous avez été une veuve joyeuse? Qu'est-ce que vous faites de vos journées depuis 2009? Qu'est-ce que c'est finalement être
alors,
vieux
Si vous voulez, quand on arrive au grand âge, et généralement les maris précèdent leur femme dans la mort, donc oui. C'est un problème très connu. J'avais plein d'amis qui avaient perdu leur mari. Et je m'étais toujours dit, quand le mari meurt, la vie change complètement. Tout d'un coup, ça veut dire que la femme qui reste, elle a 24 heures à elle par jour. 24 heures. Alors qu'avant, j'avais peut-être que 2 ou 3 heures quand mon mari était vivant. Et je me suis dit, c'est un capital énorme. C'est le moment où jamais de s'en servir. Et ça, si vous voulez, je me l'étais ancré dans la tête. Qu'il fallait voir ce moment-là comme un capital qui vous arrive tout cru.
Et de beaucoup de temps.
Beaucoup de temps à vous. Et absolument pas besoin de se restreindre. On peut prendre les repas quand on veut. C'est une liberté qui vous est donnée. Alors bien sûr, le cœur n'est pas à la joie. Je ne vais pas vous dire qu'on bat des mains de plaisir. Ce n'est pas ça du tout. Mais il faut se rendre compte que c'est un cadeau que la vie vous fait. Et c'est comme ça que je l'ai pris. Et j'avais plusieurs copines qui ne le prenaient pas comme ça. Et je m'étais dit, regarde-les bien, c'est des exemples à ne pas suivre. Plusieurs fois, je me suis dit ça. Et quand j'étais avec elles, je me disais, mais c'est affreux. Au lieu de se dire qu'elles pouvaient organiser une vie intéressante, qu'elles pouvaient même apprendre un métier, qu'elles pouvaient...
À 80 ans, on n'apprend pas un métier.
Si, il y a des choses qu'on peut apprendre.
Ah bon ?
Oh ben si, on peut apprendre à faire des choses, on peut apprendre à aider des gens d'une certaine manière. Si, mais on est encore utile. Je veux dire, on peut encore servir à quelque chose. Il vaut beaucoup mieux servir à quelque chose que de passer son temps à pleurnicher.
Vous êtes quand même assez pragmatique. Vous me disiez que... même à plus de 80 ans, vous rencontrez des nouvelles personnes ou des anciennes, mais qu'il faut inviter à déjeuner. Il faut quand même nourrir les gens pour qu'ils viennent vous voir.
Oui, ah ben, naturellement, il ne faut pas rester chez soi en attendant que le téléphone sonne. Si vous voulez que le téléphone sonne, il faut inviter des gens. Ça marche à coup sûr, ça marche à 100%, ça. Vous invitez les gens, ils sont contents, puis ils se disent, elle fait des efforts, et puis ils vous invitent. Et puis vous les invitez, et ils font connaissance avec d'autres gens, ben ils sont très contents. Tant qu'on peut le faire, moi à 80 ans, je pouvais encore faire la cuisine. Maintenant, ça va plus, je suis trop fatiguée. Enfin...
Alors, vous avez, Monique, vous avez écrit un petit texte dans une brochure au titre assez amusant en même temps et un peu provocateur. Ça s'appelle « Vieux et créatif, toujours !» Point d'exclamation. Et là, est-ce que vous pouvez nous dire quel est un peu votre argument là sur ce... En quoi on peut être actif toujours? Votre texte s'intitule « Écoutez les autres ».
Oui. Alors, tout ce que je trouve, c'est que quand on a passé 80 ans, des amis vous téléphonent souvent, ils disent qu'ils veulent vous voir. Ils viennent vous voir, ils s'asseyent devant vous, et pendant une heure et demie, ils vous disent leur malheur. Et c'est d'un ennui, c'est épouvantable, parce que c'est un malheur qui n'en est pas un vrai, c'est pour des petites choses. Ils vous disent, par exemple, qu'ils ne peuvent pas supporter que le mari met ses pantoufles à gauche du lit, alors qu'à droite, ça, il y aurait beaucoup plus de place. Des choses comme ça. Mais on se dit, mais elles sont folles de s'attarder à des broutilles pareilles pour être malheureuses. Eh bien, c'est ça. Et elles viennent vous raconter ces histoires. Et alors, c'est d'un ennui ce qu'elles vous racontent. C'est épouvantable. Et moi, j'ai compris que... Quand elles vous ont raconté toutes ces histoires et qu'on les a écoutées, on leur dit quelques mots pour essayer de leur faire comprendre enfin, la velléité de leurs ennuis et qu'elles se rendent bien compte que ce n'est pas grave du tout, qu'elles se prennent en main. Et ça leur fait beaucoup de bien d'avoir raconté tout ça. Ça leur fait beaucoup de bien qu'on leur dise que c'est pas grave. Et quand elles partent, elles vous remercient de les avoir écoutées.
Ça, c'est vos contemporaines. Mais vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, vous voyez des plus jeunes.
Oui.
Comment est-ce qu'une personne de votre âge, finalement, peut aussi les aider, les comprendre? Est-ce qu'il y a une communication possible entre une dame de 99 ans et un jeune de 30 ans, puisque c'est le
oui,
âge
ben de... c'est toujours pareil, il faut les laisser parler. Et surtout ne pas leur faire de remontrances, c'est pas ça. Mais on les laisse parler, et puis on leur montre à quel point c'est beaucoup moins grave qu'ils ne le disent, et qu'ils n'ont qu'à changer leur mode d'emploi, ils changeraient un peu leur vie, et qu'ils seraient parfaitement capables d'avoir une vie très agréable. On leur montre à quel point... C'est dans leur tête qu'ils ne sont pas libres, mais que s'ils voyaient les choses objectivement, ce serait beaucoup moins grave et beaucoup plus vivable. C'est tout ce qu'on peut faire pour eux, les écouter. D'ailleurs, rien que le fait de parler, ils s'écoutent eux-mêmes. Et eux-mêmes, parfois, commencent à se rendre compte de la velléité de leurs histoires.
C'est le cabinet de psychanalyse ici, alors?
Non, je ne me compare pas du tout à un psychanalyste.
Non, c'est autre chose, mais enfin, c'est il y a autre... quelque chose de...
Mais si vous voulez, ils deviennent conscients, enfin, de la disproportion entre leur malheur et la vie matérielle qu'ils croient malheureuse.
Oui. Et d'être... parce que là, 99 ans, c'est même plus le quatrième âge, c'est quasiment le cinquième âge, ou c'est quasiment plus d'âge, d'une certaine oui. manière. Est-ce que ça procure un avantage, une sorte de sagesse ou de ce regard éloigné dont parlait justement Claude Lévi-Strauss? On regarde tout ça, pas forcément, enfin, pas de haut, mais de loin peut-être.
Ah bah, si vous voulez, plus on vieillit, plus on devient indulgent.
Ah oui.
Ah oui.
Ah, c'est bien ça.
Ah oui. On se dit que, enfin, les gens ont chacun leur cohérence. Il faut être indulgent, il faut accepter qu'il y ait des gens différents de soi. Ça, c'est la grande chose. Et ils ont leur vie à eux. Enfin, il faut être indulgent, il faut être beaucoup moins critique. Ça, c'est ce que je trouve, l'indulgence.
Et est-ce que vous pensez à la mort?
Oh, bah oui, je sais que je vais mourir. La seule chose, si vous voulez, en ce moment, je rends tous les paquets qui sont pas à moi. Parce que ça, je me dis, personne ne fera ça quand je serai morte, personne ne saura. C'est des choses qui étaient restées en souffrance chez moi. Ben voilà.
En souffrance, c'est amusant cette expression. Oui. Mais vous ne semblez pas avoir beaucoup de d'inquiétude métaphysique, je dirais.
Ah, j'ai pas la trouille du tout. Pas du tout. Oh ben non, ça fait pas mal la mort. C'est comme si on s'éteignait. C'est tout.
Comme une flamme qui s'éteint.
Ben oui, c'est pas. C'est... Ben, j'ai vu des gens mourir, c'est rien d'autre. Ils respirent, tout d'un coup, ils respirent plus. Vous mettez un miroir devant leur bouche et puis il n'y a plus rien. C'est tout. C'est pas plus grave que ça.
Oui, mais c'est la fin.
Oui, mais écoutez, moi je trouve que j'en abuse de la vie.
Monique, est-ce que vous êtes satisfaite de votre vie?
Je trouve que j'ai une chance énorme. Je suis vernie, disons. Parce que je finis ma vie en étant très demandée. Tout le monde me fait des compliments, tout le monde m'apporte des cadeaux. Enfin, je termine ma vie de manière très, très agréable.
Mais elle n'est pas terminée. Mais avant de tout ce parcours de vie, finalement, dont on a parlé durant ces 5 émissions, ce qui vous donne la paix de l'âme, c'est peut-être aussi que vous avez l'impression d'avoir eu une vie accomplie, je ne sais pas.
Si vous voulez, j'ai une vie très, très difficile. Mais il faut aussi dire qu'une vie difficile, ça vous éclaire.
Pourquoi difficile?
Ben, si vous trouvez que c'est pas difficile avec une mère juive de passer la guerre en Allemagne,
ah, si.
Je veux dire, j'ai été servie quand même.
Si, si, oui. On oui. a vu ah, ben, que ça c'est l'épisode qui a été...
5 ans en Allemagne nazie avec une mère juive, et en pensant tous les jours qu'on allait venir nous chercher pour aller à Auschwitz... Enfin, si vous voulez, c'est très, très dur.
C'est peut-être ça qui a fait que le reste vous a paru plus facile, d'une certaine manière.
En tous les cas, moins dangereux. Ça, je peux vous dire, le reste m'a paru vraiment beaucoup moins dangereux. Oui. Oui.
Quand on survit à quelque chose de très dur, ça donne des avantages aussi, d'une certaine manière.
Et ben,
des atouts, plutôt.
Oui, c'est-à-dire que ça vous fait beaucoup réfléchir. On sait... Très jeune, beaucoup mieux, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. On pense aux autres aussi avec beaucoup plus d'objectivité. Et quand on voit qu'on peut aider les autres, on le fait parce que on sait qu'on a besoin de l'aide des autres, comme on a eu de l'aide dans un moment très difficile. Enfin, ça vous donne une grande maturité, disons. Et de partir dans la vie avec une grande maturité, ça vous permet de faire des choix qui sont probablement meilleurs à long terme. C'est-à-dire que on choisit un mari avec qui on est vraiment sûr de s'entendre, parce que on sait que c'est pas une plaisanterie. Enfin, on est plus sérieux dans ses choix.
Merci Monique, merci pour ces entretiens. C'était À Voix Nue, Monique Lévi-Strauss. Réalisation Jean-Philippe Navarre, chargé de programme Daphné Abgral. Une série proposée par Emmanuel Loyer, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.